VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 26 janvier 2023. Avec vous, Eric Manilakidza, voici d'abord le sommaire. Les États-Unis et l'Allemagne annoncent la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Dans la foulée, Zelensky réclame des missiles de longue portée et des avions de combat. Après le Mali, les troupes françaises sur le départ au Burkina Faso. Au Mali, un tribunal condamne à mort un homme pour le meurtre de trois casquets bleus en 2019. En Mauritanie, un procès exceptionnel s'ouvre contre l'ex-président Aziz pour répondre d'enrichissement illicite. Le pape François, attendu en RDC et au Soudan du Sud, en messager de paix. Retour dans la liesse de l'opposant tanzanien Tundu Lissou après des années d'exil. Washington appelle à une enquête impartiale après l'assassinat d'un opposant en Eswatini. Les autorités rwandaises enquêtent sur l'agression verbale d'une femme arbitre à suivre dans les sports de Yacouba Ouédraogo. Le président bissau-guinéen estime que la création d'une nouvelle monnaie commune dans l'espace CDAO va renforcer considérablement l'intégration régionale. Nous en parlons dans la page économie. Mais d'abord, le journal. Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe, a annoncé ce mercredi le président américain Joe Biden dans la foulée du feu vert allemand à l'envoi de chars Léopard à Kiev. Ces annonces sont une étape importante pour la victoire finale, a salué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclamait de tels engins depuis plusieurs mois. Le point avec Jean-Roger Bion.
Merci à Joe Biden pour une nouvelle décision puissante de fournir des chars Abrams à l'Ukraine, reconnaissant envers les Américains pour leur soutien, a écrit Volodymyr Zelensky sur Twitter. Il s'agit d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, a déclaré pour sa part hier Joe Biden lors d'une brève allocution depuis la Maison-Blanche. Le Pentagone explique que les 31 chars correspondent précisément à la composition d'un bataillon de chars ukrainiens. Mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné son feu vert à la livraison de chars Léopard. Il a aussi donné son accord à la Pologne et d'autres pays qui le souhaitent de livrer des chars Léopard 2, tout en affirmant vouloir éviter une escalade qui conduirait à une guerre entre la Russie et l'OTAN. De son côté, l'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergueï Nechaïev, a dénoncé une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
Après les chars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé à ses alliés occidentaux des missiles de longue portée ainsi que des avions de combat. Toujours en Ukraine, Kiev a reconnu ce mercredi que ses troupes s'étaient retirées de Soledar, une ville de la région de Donetsk, où s'est déroulée l'une des batailles les plus féroces depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an. La prise de Soledar est la première victoire russe depuis des mois et met fin à une série de défaites et de replis sur les fronts oriental et méridional. La Russie a fustigé hier les tactiques coloniales de l'Occident pour faire pression sur les continents en développement, saluant la position équilibrée de l'Angola qui s'est longtemps abstenue de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Rosine Munezero.
La Russie apprécie la position équilibrée de l'Angola aux Nations Unies, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov à l'issue d'une rencontre à Luanda avec son homologue angolais Tete Antonio et le président João Lourenço. Dénonçant les pressions illégales des États-Unis et ses alliés, le chef de la diplomatie russe a ajouté que l'Occident utilise les mêmes tactiques coloniales que par le passé pour exploiter les continents en développement. Plusieurs pays africains se sont abstenus en mars 2022 lors du vote d'une résolution de l'ONU pour condamner la Russie. L'Afrique est redevenue un champ de bataille d'influence politique et économique depuis le début du conflit en Ukraine, il y a près d'un an. Monsieur Lavrov est en visite pour la seconde fois en 6 mois sur le continent. Avant l'Angola, il s'est rendu en Afrique du Sud et en Eswatini.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France va retirer ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois.
Le ministère des Affaires étrangères a dit avoir reçu mardi la dénonciation par le gouvernement burkinabé de l'accord militaire de 2018. Nathalie Barge.
Le Burkina Faso héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre. Ces troupes auront quitté le pays d'ici fin février. L'option serait de redéployer ces militaires au Niger qui accueille près de 2000 personnels français. Depuis le coup d'état de septembre qu'il a porté au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont manifesté leur volonté de diversifier leur partenariat en matière de lutte contre le djihadisme. Les nouvelles autorités ont engagé un rapprochement avec la Russie. Selon des sources françaises, une équipe de liaison de la société paramilitaire russe Wagner est venue prospecter au Burkina Faso, riche en ressources minières. En décembre, la junte a demandé à Paris le remplacement de son ambassadeur, Luc Allade, qui a fait état de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Le président français Emmanuel Macron a lancé une réflexion pour repenser les partenariats militaires sur le continent africain qui devront répondre aux demandes spécifiques des pays et s'appuyer sur des dispositifs moins visibles. Environ 3000 militaires français sont déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.
Le procès dont l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert hier avec l'image dramatique de l'ancien chef d'État dans un box ressemblant à une cage, répondant aux accusations d'avoir amassé une fortune personnelle illicite pendant ses 11 années au pouvoir. Mohamedou Oumfa.
Mohamed Ould Abdelaziz, un ancien général de 66 ans, a comparu devant le tribunal de Nouakchott aux côtés de 9 autres accusés, dont d'anciens premiers ministres, des ministres et des hommes d'affaires. Ils sont tous accusés d'abus de pouvoir, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. La procédure a débuté par un appel des accusés auquel M. Aziz, vêtu du traditionnel boubou, un masque chirurgical, a répondu en levant la main. Centaines de policiers ont monté la garde à l'extérieur. Il se décrit comme la victime d'un règlement de compte et fait valoir qu'il bénéficie d'une immunité de poursuite en vertu de la Constitution. Ce procès peut durer plusieurs semaines, voire des mois. Monsieur Aziz, fils de commerçant, arrivé au pouvoir par un coup d'État sans effusion de sang, a quitté le pouvoir en 2019 après 2 mandats. Son ancien bras droit, Mohamed Ould Ghazouani, lui a succédé. Monsieur Ghazouani, également ancien général, décrivait en décembre 2019 son ancien patron comme son frère et ami.
27 éleveurs ont été tués, plusieurs blessés ce mercredi dans l'explosion d'une bombe dans le centre du Nigeria, une région en proie à des violences communautaires selon la police. Plusieurs autres personnes ont été blessées et le bilan des morts pourrait grimper, a indiqué un responsable de la police de l'État de Nassarawa. Des experts de la police enquêtent sur l'origine de l'explosion. De son côté, un groupe représentant des éleveurs a affirmé que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane. Un tribunal malien a condamné à mort un homme qu'il n'a pas nommé pour le meurtre en 2019 de 3 casquets bleus guinéens dans le sud du pays, a indiqué ce mercredi la mission de l'ONU au Mali. Le tribunal de Bamako a reconnu l'accusé coupable d'actes de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de meurtre, de vol qualifié, de possession illégale d'armes à feu, a indiqué la mission dans un communiqué. Au moins 17 personnes ont été blessées et admises dans des structures médicales ce mercredi soir après l'explosion d'une bombe dans un petit marché Makampagne du quartier Kalinda de Beni dans l'est de la RDC, a déclaré Tarsis Katembo, chef de ce quartier populaire de Beni, province du Nord Kivu. Le pape François devrait plaider l'urgence de la paix lors d'une visite très attendue en RDC au Soudan du Sud la semaine prochaine. Pour son 40e voyage à l'étranger, le pontife argentin se rendra mardi à Kinshasa avant de rejoindre Djouba du 3 au 5 février. François prononcera 12 discours et rencontrera, outre les autorités, des victimes de violences et des personnes déplacées, des membres du clergé et des représentants d'œuvres caritatives. Figure centrale de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, est rentré ce mercredi de plus de 5 ans d'exil. Tout sourire, il a été accueilli peu après la mi-journée par des responsables de son parti Chadema à l'aéroport de la capitale économique Dar es Salaam. Il a ensuite pris la route pour gagner un meeting prévu à une quinzaine de kilomètres de là, dans un trajet aux allures de Bendofu le dos plusieurs heures, saluant par le toit d'une voiture des milliers de partisans venus l'acclamer avec drapeau aux couleurs de Chadema. Le gouvernement tanzanien a multiplié les signes d'ouverture ces derniers mois. Les États-Unis ont appelé ce mercredi les autorités des Swatini à mener une enquête transparente et impartiale sur le brutal assassinat d'un célèbre avocat et opposant du royaume, Tulani Maseko. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a souligné que les États-Unis restaient profondément préoccupés par les violences dans le royaume et appelé à ce qu'une date soit fixée pour un dialogue national inclusif aussi vite que possible. Le géant des réseaux sociaux Meta a annoncé ce mercredi qu'il allait, dans les prochaines semaines, mettre fin à la suspension des comptes de Donald Trump sur Facebook et Instagram, 2 ans après l'exclusion de l'ancien président américain suite à l'assaut du Capitole. Les représentants de la Russie n'ont pas été invités aux célébrations du 78e anniversaire de la libération par l'armée rouge du camp de la mort nazie d'Auschwitz. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place à votre actualité économique présentée ce matin par Mohamedou Koufa dans sa Minute Éco.
Le président bissau-guinéen Oumaru Sissoko Embalo a estimé mardi que la création d'une nouvelle monnaie commune dans l'espace CEDEAO allait renforcer considérablement l'intégration régionale. À l'ouverture d'un séminaire d'information des parlementaires de la CEDEAO sur la création de l'éco, il a jugé que la création de la nouvelle monnaie était une démarche destinée à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les pays de la sous-région. Au Congo, le ministre en charge des infrastructures, Jean-Jacques Bouya, a procédé mardi à Brazzaville au lancement du projet d'accélération de la transformation numérique financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale. Ce projet est destiné à accroître l'accès à Internet à haut débit dans les localités non encore connectées et d'améliorer la connectivité dans les services publics. La compagnie italienne Eni va investir 8 milliards de dollars dans le développement des sites gaziers offshore au large de la Libye au terme d'un accord avec la compagnie libyenne nationale de pétrole. Cet accord sera signé samedi 28 janvier lors d'une cérémonie officielle, a annoncé mercredi le patron de la compagnie libyenne. Une visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni est en outre prévue dans les prochains jours à Tripoli.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Mouila Lambaréné, c'est l'étape 4 de la Tropicale Missabongo qui se court ce jeudi.
Oui, les cyclistes ont 190 km à parcourir. Hier, Jason Tesson a réalisé le doublé lors de l'étape 3 de la Tropicale Missabongo après sa victoire lors de la deuxième étape courue mardi. Le Français s'est à nouveau imposé mercredi entre les Bamba et Mouila, 123 km. Jason Tesson a arraché du même coup le maillot jaune à son compatriote Geoffrey Soupe, vainqueur lundi de la première étape et qui est relégué au deuxième rang du classement général.
Football à présent, Yacouba, avec le championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2022.
Pas de match aujourd'hui. Les matchs de poule ont désigné mardi les derniers qualifiés pour les quarts de finale, dont le tableau affiche complet. Deux matchs vendredi, le pays hôte, l'Algérie fera face à la Côte d'Ivoire et juste après, le Sénégal affrontera la Mauritanie qui a étonnamment sorti le Mali. Samedi, les novices malgaches qui découvrent cette compétition voudront poursuivre leur belle expérience face au Mozambique. Le dernier quart de finale mettra aux prises le Niger et le Ghana dans un duel ouest-africain.
Enfin, les autorités rwandaises enquêtent sur l'agression verbale d'une femme arbitre.
Des insultes ont été scandées à plusieurs reprises à l'encontre de Salima Mukasanga par des supporters de Kiyovu Football Club alors qu'elle arbitrait le match nul 0-0 contre Gazogi United vendredi à Nyamata. La communauté sportive de Kiyovu ne toléra pas qu'on manque de respect à quiconque, surtout dans le sport, a déclaré le club dans un communiqué. La Fédération rwandaise de football a condamné les abus et a annoncé qu'elle a ouvert sa propre enquête. Une porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a félicité la fédération pour avoir pris des mesures contre un comportement inacceptable. Salimata Mukansanga est entrée dans l'histoire en faisant partie des 3 femmes figurant sur la liste des 36 arbitres sélectionnés par la FIFA pour la Coupe du Monde Qatar 2022. La jeune arbitre de 34 ans est aussi entrée dans l'histoire l'année dernière en devenant la première femme à arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations.
C'était les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, de retour avec vous, Eric Manilakiza, place au dossier du jour. Le principal opposant tchadien, Succès Mastra, président du Parti des Transformateurs, a quitté son pays il y a plus de 2 mois. C'était peu après les manifestations dont la répression a causé la mort d'au moins 50 personnes, selon un bilan officiel. De passage à la VOA, ici même à Washington, au micro de Mohamedou Oumfa, Succès Mastra parlait de son départ du Tchad et des événements qui l'ont poussé à quitter son pays.
Je suis à Washington pour porter la voix de mon peuple qui veut installer la démocratie sur la base de la justice et l'égalité et rompre avec la dynastie. J'ai dû quitter mon pays une dizaine de jours après un événement que les Tchadiens appellent désormais le jeudi noir du 20 octobre. La junte qui est arrivée au pouvoir à la mort du président Déby a pris des engagements de rester pour 18 mois. Les 18 mois devaient prendre fin le 20 octobre 2022. Ils ont renié donc l'ensemble de ces engagements. Le peuple était sorti en vaste majorité. Ils ont massacré, comme tout le monde a observé, plus de 300 personnes tuées, plus de 200 portées disparues, plus de 2000 arrêtés, dont un bon millier a été déporté dans une prison de haute sécurité en plein désert et dont nombreux sont morts en cours de route.
Vos partisans et plusieurs personnes s'interrogent. Quand est-ce que vous rentrez au Tchad?
Je ne suis pas en demande d'asile. Moi, j'ai démissionné de mes responsabilités comme économiste quand j'étais à la Banque africaine de développement pour rentrer au Tchad, faire face à un maréchal qui, à l'époque, était prêt à tuer. Mais nous avons résisté. Et donc, vous voyez bien que cette détermination et ce peuple qui est debout là, c'est à ses côtés que je vais travailler, que je compte travailler. Et donc, ma présence au pays ne fait aucun doute.
Revenons un instant sur les manifestations du 20 octobre, cette terrible journée. Hein, c'était des marches, c'était un sit-in. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire ce jour-là?
L'objet, et le seul objet, c'est de demander le respect d'un engagement qui a été pris devant notre peuple, devant l'Union africaine, devant les Nations unies. Cet engagement, il est tout simple. C'est que les militaires qui sont arrivés se sont engagés au 20 octobre à rendre le pouvoir. Ils n'ont pas tenu cet engagement. Et le peuple qui était sorti de façon pacifique.
Oui, le général Mahamat Idriss Déby, que nous avons interviewé en décembre dernier, il a dit que ce n'était pas des manifestations, c'était une insurrection, une tentative de coup d'État. Qu'est-ce que vous répondez?
D'abord, une insurrection, c'est lorsqu'on a affaire à un pouvoir élu. Je rappelle au passage qu'il n'est pas élu. La deuxième chose, je crois que des observateurs crédibles comme Human Rights Watch ont clairement démontré qu'il n'y avait même pas d'insurrection. Ils ont même argué qu'il y avait des officiers de l'armée, de la police, etc. qui ont été tués. Nous avons demandé de donner les noms. Impossible de les donner. On est en train de vouloir déplacer l'enjeu.
L'ONG Human Rights Watch a justement rendu public un rapport lundi. Cette organisation demande à la communauté internationale d'apporter une réponse forte après la répression du 20 octobre. Quel type de réponse pensez-vous que la communauté internationale peut apporter?
Ce qui est attendu de l'ONU, c'est deux choses. Soit la fin de la dynastie à travers un accord post-crise sous le modèle de ce qui a été fait par exemple en Côte d'Ivoire, donc un accord onusien dans ce sens, soit une résolution de ce que j'appelle la séparation à l'amiable, où il y aura deux Tchad, le Tchad de ceux qui croient dans la dynastie et leurs accompagnateurs, et de l'autre côté, le deuxième Tchad des pro-démocratie, parce que c'est au nom de ce que j'appelle le droit à l'autodétermination des peuples. Il y a un peuple tchadien majoritaire qui veut la démocratie, et puis il y a une minorité qui veut la dynastie.
C'était l'opposant tchadien Succès Mastra au micro de Mohamedou Oumfa. L'intégralité de cet entretien en vidéo sera disponible sur votre site web voafrique.com.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté mardi à la veille de son procès qui s'est ouvert devant une cour criminelle. Sa défense crée un procès politique tandis que les avocats de l'État annoncent plutôt un jugement équitable. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
Inculpé pour corruption, enrichissement illicite et autres, l'ex-président mauritanien risque jusqu'à 20 ans de prison avec privation des droits civiques. Cependant, Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas le seul. Il a 10 co-accusés dont ses proches et ses anciens ministres. Son avocat, maître Mohamed Chidou, parle de procès faussé dès l'enquête préliminaire.
Ce dossier qui a fait un an, voire plus, à la justice n'a pas fait l'objet d'enquête. En réalité, le parquet et le pôle d'instruction n'ont pas été justes. Ils sont allés jusqu'à même violer les dispositions juridiques qui les régissent. Ils ont mis la loi de côté sans application aucune.
L'avocat de l'État, maître Brahim Ebeti, rejette cet argument.
Lors de l'enquête préliminaire, tout prévenu a eu le droit de se faire assister par un avocat. Et c'est la nouvelle loi portant organisation du barreau qui le consacre, ainsi que lors de l'instruction. Donc, je pense que toutes les garanties sont là, d'autant plus que nous tous, aussi bien avocat de la défense qu'avocat de la partie civile, que la cour, le parquet, tout le monde concourt pour offrir les meilleures garanties pour que ce procès soit l'un des procès uniques du genre en termes de garanties des droits de la défense, mais aussi en termes de modèle, de symbole pour toute la sous-région.
Les déboires de Ould Abdelaziz commencent en novembre 2019. Après 4 mois de séjour à l'étranger, il revient pour diriger le parti UPR qu'il avait créé. Cette formation rebaptisée El Insaf détient l'écrasante majorité des parlementaires et les 2/3 des communes. Débute ainsi le bras de fer qu'il va perdre face à son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Razouani. Et le parti se range du côté de ce dernier, la défense.
À partir de cette affaire exceptionnelle qu'ils ont créée, peut-être qu'ils cherchaient à priver l'homme illégalement de ses droits civiques et à l'empêcher de faire la politique en raison de son poids important sur la scène politique et de sa popularité chez les Mauritaniens.
L'avocat de l'État
a examiné le fond du dossier, l'ensemble des pièces et l'ensemble des interrogatoires, l'ensemble des investigations, l'ensemble des commissions rogatoires qui ont été exécutées, l'ensemble des indices exclut toute tentative de qualifier ou de dire qu'il s'agit d'un procès politique.
En tout cas, 2 mois plus tard, une commission d'enquête parlementaire épingle l'ex-président qui sera inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
L'ex-première ministre du Sénégal, Aminata Touré Dimimi, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchu de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel. Madame Touré a dit avoir appris son exclusion de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall en toute violation de la loi. Les réactions avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La déchéance de Aminata Touré de son mandat de député est un acte politique qui n'honore pas la démocratie sénégalaise car il viole le suffrage universel des votants. Tel est l'avis de beaucoup de Sénégalais interrogés. Cependant, pour Elhadj Niass, même si la coalition au pouvoir a manqué de grandeur, Aminata Touré, dite Mimi, aurait pu aller au bout de sa logique et suivre l'exemple du président Sall, qui avait démissionné de son poste à l'Assemblée nationale pour rejoindre l'opposition et faire face au régime du président Abdoulaye Wade.
Une analyse, c'est de moi, ça veut faire comme Macky Sall l'a fait en 2012, en 2009 du moins, je me suis consenti, je ne peux pas encore cheminer avec eux, je vais me laisser. J'allais aller battre campagne, laisser tout ce que Macky Sall m'avait donné, laisser le parti, le mandat de député, tout est allé de mon propre gré, battre campagne et former ma coalition ou bien mon parti pour aller demander le suffrage des Sénégalais.
Consultant pour des organismes privés et publics, ce citoyen a requis l'anonymat pour préserver ses intérêts professionnels. Pour lui, la déchéance du mandat de parlementaire de Aminata Touré dite Mimi est une élimination flagrante et inélégante d'un adversaire politique, un fait qui va à l'encontre des valeurs de la République et de la démocratie.
Elle est élue en tant que députée. C'est le peuple sénégalais qui élit les députés, qui envoie des représentants à l'Assemblée nationale. À partir du moment où c'est le peuple qui choisit ses représentants, il est libre de s'exprimer ou d'avoir des opinions. Voilà, elle n'est pas obligée de des députés Godillo qui sont là et qui suivent les directives de l'exécutif.
Cet avis est globalement partagé par les Sénégalais que nous avons rencontrés. Serigne Gueye, commerçant de son état, estime que Mimi Touré ne sort pas perdante de ce bras de fer.
Le pouvoir ne devait pas avoir cette démarche envers Aminata Touré, car elle a tout fait pour leur victoire lors des dernières législatives en étant tête de liste. C'est une vraie battante et tous les Sénégalais savent que Mimi est une dame qui ne se laisse pas faire. Je pense que cette exclusion a un aspect positif car ça va la renforcer en vue des prochaines échéances. Les habitants des zones populaires où elle est affiliée vont certainement lui prêter main forte.
Son exclusion de l'Assemblée nationale actée, Aminata Touré peut essayer de contester la décision devant la justice. Cependant, pour bon nombre de Sénégalais, l'ancienne Premier ministre doit profiter de cette décision pour mieux se positionner sur l'échiquier politique en vue de la présidentielle de l'année prochaine. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Fin mardi à Niamey, au Niger, de la troisième conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad, une initiative des pays de cette région pour solliciter de leurs partenaires internationaux du soutien pour faire face à la crise multidimensionnelle à laquelle la région est confrontée depuis des années. Les conclusions de cette rencontre avec notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Après deux jours de discussion, des annonces de soutien financier pour aider les populations riveraines du bassin du lac Tchad à un retour rapide à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à un renforcement de leur résilience, ont été faites. Mahamane Nuhu, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. Les problèmes ont été clairement identifiés et je suis heureux que nous soyons parvenus à combler le gap entre les humanitaires, les acteurs de développement et ceux de la paix. Le nexus n'est pas totalement atteint, mais nous y sommes presque. Il y a eu des annonces de soutien de la part de divers pays. Le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé 50 millions de livres sterling, l'Allemagne 100 millions d'euros et bien d'autres annonces que nous apprécions énormément. Et nous attendons d'autres partenaires qui voudront bien venir aider les populations de la région. Les gouvernements des pays de la région du lac Tchad vont donc, avec les fonds ainsi annoncés par leurs partenaires, définir les priorités des projets de stabilisation et ou de relèvement à mettre en œuvre dans les zones affectées. Hassoumi Massaoudou, ministre nigérien des Affaires étrangères.
Les programmes de stabilisation doivent s'appuyer sur une participation claire des populations pour identifier les projets en fonction des besoins réels de ces populations. Les déplacements massifs des populations représentent un véritable défi dans la région du lac Tchad. Les populations déplacées ont besoin de solutions durables basées sur le retour, la réintégration et la reprise d'activités économiques. En conséquence, les conditions idoines pour un retour volontaire dans les lieux de résidence d'origine doivent être créés dans les meilleurs délais. Aucun aspect de la crise n'a été ignoré ou négligé. Je voudrais alors lancer un appel à tous les partenaires en vue d'une mobilisation conséquente et d'un soutien adéquat aux efforts des gouvernements des pays de la région dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de stabilisation et de relevement des zones affectées.
La dernière édition de cette conférence de haut niveau sur la région du bassin du lac Tchad s'est tenue à Berlin, en Allemagne, en 2018. Depuis, la crise dans cette région s'est aggravée avec une augmentation de la violence, des défis de développement, des besoins humanitaires et des obstacles à l'accès aux services sociaux de base, aux systèmes de production et à l'aide humanitaire. 5,3 millions de personnes sont toujours déplacées au sein de la région. Les exigences de financement pour les interventions d'urgence dans cette région se sont accrues de quelques 259 millions de dollars américains, alors que les besoins aux fins de la stabilisation sont estimés, eux, à 1,8 milliard de dollars américains. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Kalala Alimassi a aussi assuré la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.